9h, 10h, c'est arrivé demain.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour, bon dimanche. À partir de demain, le masque ne sera plus obligatoire dans les transports en commun et ce, malgré les 30 000 nouveaux cas quotidiens en moyenne et 90 décès du Covid-19 par jour dans les hôpitaux. En Chine, c'est le contraire. Quelques dizaines de cas suffisent pour bloquer chez eux les 26 millions d'habitants d'une ville comme Shanghai. Alors pourquoi les autorités chinoises sont-elles arc-boutées sur leur politique zéro Covid en dépit des conséquences en Chine et dans le reste du monde? C'est ce que l'on va voir tout de suite avec Antoine Bondaz. Je recevrai ensuite Pierre Vesperini qui vient d'achever un gros travail sur la cancel culture. Que faut-il répondre à ceux qui accusent Napoléon d'être un esclavagiste ou à celles qui s'indignent que Carmen, l'opéra, s'achève par un féminicide? Il va nous dire ce qu'il en pense. Et l'on terminera l'émission avec Brigitte Benkemoun qui publie une biographie de Marie-Thérèse Walter, L'amour caché de Picasso.
Europe 1.
Bonjour Antoine Bondaz.
Bonjour.
Vous êtes chercheur à la Fondation pour la recherche stratégique, spécialiste de la Chine. Depuis le 30 mars, la ville de Shanghai est soumise par les autorités chinoises à un confinement très sévère. D'autres grandes villes comme Shenzhen, Jilin ou Yangji ont subi plus ou moins le même sort. Cela donne des scènes souvent aberrantes, relayées par les Shanghaïens sur les réseaux sociaux et des situations de détresse alimentaire qu'aucun autre pays n'a connues depuis le début de la crise du coronavirus. Pourquoi le gouvernement s'obstine-t-il dans la politique zéro Covid, quand bien même l'OMS lui explique qu'elle est intenable?
Cette stratégie sanitaire, ce zéro Covid dynamique, comme on l'appelle à Pékin, il repose aujourd'hui sur deux obligations du point de vue des autorités politiques. La première obligation, elle est sanitaire. Et l'impératif sanitaire, il est que la population la plus vulnérable en Chine est aujourd'hui mal vaccinée. La seconde dose, notamment les plus âgés, la seconde dose a bien été administrée, mais le booster, cette fameuse troisième dose, a été peu administrée. À Shanghai, par exemple, seulement 30% des plus de 60 ans ont reçu la troisième dose. Le deuxième impératif, c'est un impératif politique. Les autorités chinoises, depuis le printemps 2020, ont mis en avant l'efficacité de leur système pour faire face à la pandémie et limiter drastiquement le nombre de morts. Et de cette efficacité, elles ont mis en avant la supériorité de leur modèle, notamment vis-à-vis des démocraties libérales occidentales. L'objectif pour la Chine, il est donc avant tout politique. Il est de se différencier de ce qui se fait ailleurs, notamment aux États-Unis. Et c'est donc pour cela qu'il est très difficile aujourd'hui pour Pékin de revenir en arrière et de changer sa stratégie.
Mais vous l'avez dit, les plus de 60 ans sont pas assez vaccinés. Le variant Omicron pourrait tuer 1 600 000 personnes hein, dans le pays, d'après une étude chinoise. Mais pourquoi? C'est-à-dire que on le voit tous les jours, les Chinois ont les moyens d'appliquer leur politique. Quand ils veulent quelque chose, ils n'hésitent pas à vous envoyer la police. Pourquoi est-ce que les plus de 60 ans refusent de se faire vacciner ou n'ont pas de dose?
Alors, c'est une question fondamentale à laquelle il est très difficile de répondre puisque les autorités politiques n'en ont jamais réellement parlé. Il y a effectivement une incohérence entre un pays qui non seulement produit massivement des vaccins et a également les capacités d'organisation pour vacciner, puisqu'on l'a vu avec la campagne pour la première et la deuxième dose, qui a vacciné une très large majorité de la population. Et donc, comment expliquer que pour cette troisième dose, il y ait un blocage, il n'y ait pas d'efficacité, entre guillemets, dans la campagne? Ça, c'est une vraie question. Avec une forme de paradoxe de plus, c'est qu'à force de se concentrer avant tout sur les dépistages massifs et rapide, le personnel de santé n'a pas le temps, en tout cas c'est comme ça que c'est expliqué, pour vacciner massivement. Or, on pourrait penser à une double campagne de dépistage et de vaccination. Et donc là, on continue d'avoir une incertitude et les autorités sanitaires s'expriment assez peu sur le sujet.
Est-ce qu'il serait possible que les plus de 60 ans n'aient pas confiance dans le vaccin chinois ou n'aient pas confiance tout simplement dans le gouvernement?
Alors, ce serait toujours possible, mais comme souvent en Chine, du moment où le gouvernement impose une deuxième, une troisième, voire une quatrième dose, la population suivra. Il y a donc une incertitude du côté des autorités, bien plus que du côté de la population.
Alors, l'automne prochain se tiendra le 20e congrès du Parti communiste chinois. Xi Jinping a besoin d'une victoire contre la pandémie pour conforter son pouvoir?
Alors oui, tout comme il l'avait fait en mars 2020, il faut se rappeler de ces images, au moment même où l'Europe et les États-Unis entraient de front dans la pandémie, la Chine en sortait et annonçait la victoire du pays sur la pandémie. Depuis, Xi Jinping est obligé de mettre en avant le fait que la Chine réussit, contrairement aux autres pays. Et c'est justement parce qu'il n'y a plus de stratégie zéro Covid à l'étranger que la Chine doit aussi, de façon paradoxale peut-être, la maintenir pour montrer justement que le système de gouvernance chinois est différent, il est plus efficace, il est supérieur. Et donc évidemment, Xi Jinping est tenu par cet engagement et doit s'assurer, et c'est progressivement le cas à Shanghai, puisque la situation s'améliore. On est aujourd'hui à peu près 2000 cas par jour contre 27 000 il y a quelques semaines. Il y a cet impératif, entre guillemets, de réussite, avec des conséquences humaines, économiques importantes.
Mais Xi Jinping, qu'est-ce qu'il a prouvé, on l'imagine, irrenversable depuis qu'il a modifié la Constitution en 2018 ? Sa dictature semble absolue. Alors,
effectivement, la Constitution de la République populaire de Chine a changé, pas forcément celle du parti communiste. Et c'est une pratique qui veut qu'au bout de deux mandats, il y ait un renouvellement générationnel. Aujourd'hui, il faut être très clair, on ne voit aucune opposition au plus haut niveau à l'exercice du pouvoir de Xi Jinping. Et depuis plus de 10 ans, il a, entre guillemets, fait le ménage. Il a concentré le pouvoir dans la société autour du parti et dans le parti autour de sa personne. Et il apparaît, comme vous l'avez dit, comme non critiquable ou en tout cas non challengé pour le remplacer. En même temps, et c'est le problème aujourd'hui en Chine, il y a un manque de visibilité sur ce qui se passe au plus haut niveau. Il y a de plus en plus une sorte de bulle informationnelle autour du parti. Il est très difficile pour les chercheurs, mais aussi pour les diplomates, pour les services de renseignement, de savoir ce qui se passe. Mais un remplacement de Xi Jinping serait une véritable surprise. Et c'est pour l'instant le scénario le moins probable qui est mis en avant.
On fait une pause, Antoine Bondaz. On se retrouve juste après.
9h, 10h, c'est arrivé demain.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Nous explorons ce matin les conséquences en Chine et dans le reste du monde de la politique zéro Covid du gouvernement chinois avec Antoine Bondaz qui est avec nous en direct ce matin. La population chinoise, est-ce qu'elle pèse dans la balance ? Elle ne vote pas, hein ?
Alors, elle s'exprime indirectement à travers notamment les réseaux sociaux et le Parti communiste suit effectivement les mouvements d'humeur. La question est de savoir si la population peut peser sur le gouvernement. Évidemment, c'est extrêmement difficile. Par contre, il faut vraiment relativiser ce qui se passe à Shanghai, dans le sens où cela se passe à Shanghai. Et ce n'est pas parce qu'il y a une contestation qui est extrêmement forte contre la politique sanitaire et contre certains excès, y compris des autorités locales à Shanghai, que cela est représentatif du reste du pays. Et c'est bien l'enjeu à Pékin, c'est de faire du cas de Shanghai un cas shanghaïen et en aucun cas un cas chinois.
Shanghai étant la ville la plus peuplée de Chine.
Une des villes les plus peuplées, mais surtout une ville très différente des autres par son histoire, par son développement économique, par son lien avec l'étranger. Et Shanghai, en quelque sorte, c'est une ville à part en Chine. C'est une ville qui a toujours mis en avant une forme de supériorité. Et c'est pour cela que la compassion des Chinois envers les Shanghaïens est plus faible qu'envers les Wuhanais, par exemple, il y a 2 ans.
Shanghai, c'est New York.
C'est New York, exactement.
Oui, évidemment. La politique zéro Covid et les confinements stricts qui en découlent ont des conséquences sur l'économie intérieure de la Chine.
Alors, effectivement, il y a des conséquences puisque l'économie ralentit et surtout dans les chaînes de valeur en Chine et pour le reste du monde, cela a un impact important. Cependant, malgré le confinement extrêmement strict à Shanghai, l'économie ne s'est pas totalement arrêtée. L'activité, par exemple, dans le port de Shanghai n'est que 20% inférieure à ce qu'elle était auparavant. Une partie des usines a repris extrêmement rapidement le travail, notamment en créant des bulles sanitaires autour de ces usines. Concrètement, on demande aux ouvriers de rester vivre dans les usines parce qu'ils sont négatifs. Et ainsi, l'usine peut continuer à fonctionner en limitant les interactions entre les ouvriers et le monde extérieur, entre guillemets.
Et pour les Chinois, ça date de Deng Xiaoping maintenant, mais on leur a dit « enrichissez-vous hein, aux Chinois ». Et ça a été ça, la révolution en Chine depuis 30 ans. Ils veulent s'enrichir. Est-ce qu'aujourd'hui, les règles de confinement strictes n'apparaissent pas comme une barrière ?
Alors effectivement, la question, c'est celle du contrat social entre la population et le parti. Non pas que la population soutient forcément le système politique, mais encore une fois, qu'il obtient des bénéfices, notamment socio-économiques, avec ce système de gouvernance. On voit depuis plusieurs années la volonté du Parti communiste de diversifier ses sources de légitimité. Nous ne sommes plus du tout sur des aspects idéologiques, ou en tout cas beaucoup moins qu'il y a 40 ou 50 ans, beaucoup plus sur des aspects économiques, mais aussi des aspects nationalistes. Et on voit notamment, depuis les années 90, émerger le nationalisme comme une garantie de la légitimité de l'autorité du parti. Avec le ralentissement économique, il faut désormais pour le parti trouver de nouvelles façons de garder sa légitimité, par exemple avec un système davantage redistributif, ou en tout cas mis en scène comme étant plus redistributif. C'était l'enjeu, par exemple, du concept de prospérité commune mis en avant par Xi Jinping, c'était à l'automne 2021.
Et alors, quelles sont les conséquences sur le reste du monde de cette politique zéro Covid ?
Alors, il y a deux conséquences. Une conséquence directe qui est le problème dans ces fameuses chaînes de valeur. Concrètement, des entreprises françaises, notamment dans l'automobile ou autres, subissent le retard à les livraisons, subissent la baisse de la production en Chine. Le deuxième est un aspect à plus long terme, c'est la prise de conscience, s'il en fallait une supplémentaire depuis deux ans, que la dépendance à la Chine a des conséquences et qu'il faut davantage, pour les entreprises occidentales, diversifier leurs partenaires. Ça ne veut pas forcément dire produire en France, mais ça veut dire ne produire pas trop en Chine, et s'assurer par exemple qu'il y a une relocalisation soit vers l'Asie du Sud-Est, le Vietnam en profite depuis de nombreuses années, mais aussi potentiellement en périphérie de l'Europe.
La Corée du Nord vient d'avouer ses premiers cas de Covid. Est-ce que ça a un lien avec la Chine et éventuellement avec la politique zéro Covid ?
Alors, c'est fort probable. Premièrement, la Corée du Nord a fermé ses frontières dès janvier 2020, dès l'annonce de cette pandémie en Chine, à une époque où on avait extrêmement peu d'informations et où il y avait extrêmement peu de contrôle. Pour une raison simple, la Corée du Nord n'a pas un système sanitaire lui permettant de contrôler l'épidémie ou une pandémie. Il faut donc la prévenir à tout prix. Or, on sait qu'il y a deux mois, le nombre de cas à la frontière du côté chinois dans la province du Jilin a commencé à exploser. Il y a eu des milliers de cas, notamment d'Omicron, dans cette province, et il est fort possible qu'il y ait une transmission depuis la frontière qui reste poreuse pour certains trafics, ce qui expliquerait que le virus ait pu arriver jusqu'à Pyongyang, et ce qui nécessite aujourd'hui aux autorités nord-coréennes de prendre des mesures extrêmement strictes à la chinoise, mais sans avoir forcément les mêmes capacités, puisque la Corée du Nord ne veut pas dépister massivement et rapidement la population comme le font les autorités chinoises.
Et est-ce qu'elle a la possibilité, comme le font les Chinois, de venir nourrir la population directement dans le hall de l'immeuble en combinaison argentée ?
Alors c'est extrêmement difficile et c'est peu probable qu'elle y arrive aussi bien qu'en Chine, alors même qu'on sait justement qu'en Chine il y a des difficultés. Premièrement parce que les moyens ne sont pas les mêmes, notamment l'utilisation des nouvelles technologies, par exemple, pour permettre les livraisons, les commandes, etc. Et deuxièmement, parce qu'il faut rappeler que la situation alimentaire en Corée du Nord n'est pas bonne depuis des années. Nous ne sommes pas dans les famines des années 90, mais il y a un problème de sécurité alimentaire chronique, renforcé notamment par le départ des organisations non gouvernementales, ces fameuses ONG, l'année dernière, ou plutôt en 2020, du fait de la pandémie, avec la difficulté pour la Corée du Nord d'importer des céréales de Chine avec les restrictions sanitaires, et désormais avec le confinement qui va limiter l'activité, notamment dans une saison importante en ce moment même, puisque c'est le repiquage du riz qui permet d'accroître les récoltes. Il y a donc potentiellement une crise alimentaire accrue dans les mois à venir qui est en train de se préparer en Corée du Nord.
Merci Antoine Bondaz d'avoir été avec nous en direct ce matin sur Europe 1. On fait une pause, on a rendez-vous maintenant avec Pierre Vesperini et la Cancel Culture.
9h, 10h, c'est arrivé demain.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Pierre Vesperini, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur au CNRS et vous publiez « Que faire du passé » chez Fayard, réflexion sur la cancel culture. Vous dites que c'est l'une des questions les plus importantes de notre époque. Pourquoi ?
Parce que je pense que ce qui est au cœur de ce problème, c'est au fond la place de la culture européenne aujourd'hui dans le monde actuel, si vous voulez. Face à toutes les attaques, toutes les critiques dont fait l'objet cette culture européenne, la réponse qui est apportée généralement, qui est une réponse consistant à au fond, adopter une attitude de refus du dialogue, de refus de la discussion, de maintien, disons, des clichés, des préjugés les plus conservateurs et les plus réactionnaires, Eh bien, je pense que cette réponse est totalement inadéquate. Et donc, par conséquent, ça aggrave en réalité le danger de voir disparaître tout simplement l'héritage de cette culture européenne, puisqu'elle est d'un côté attaquée et de l'autre mal défendue, si vous voulez.
À ceux qui accusent Churchill d'avoir été raciste ou Napoléon d'avoir été esclavagiste ou qui s'indignent que Carmen, l'un des opéras les plus joués dans le monde, s'achève par un féminicide ou que la Belle au bois dormant soit embrassée par le prince charmant sans son consentement, il ne faut pas répondre par le mépris, c'est ce que vous dites, hein ?
Oui, absolument. C'est-à-dire qu'il ne faut ni par le mépris, ni par le déni. Et je pense que bon, c'est une réaction... je comprends, c'est une réaction tout à fait humaine, puisque les gens qui mettent en avant ces faits, puisque ce sont des faits, ils blessent les gens qui défendent la culture européenne et les gens pour qui cette culture représente un absolu. Ils leur infligent une sorte de blessure narcissique. Et du coup, c'est tout à fait humain. La première réaction, c'est de refuser absolument de... Non, 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 Churchill n'était pas raciste. Et je pense que, encore une fois, la bonne réponse consiste d'abord à observer la situation, à écouter la question qui est posée et à reconnaître d'abord les faits. Reconnaître ce qu'a été l'histoire de la culture européenne, puisque je pense que la généalogie de la crise actuelle de la culture européenne, puisqu'au fond, c'est ça ce qui se passe. Enfin, ce qu'on appelle cancel culture est en fait un nom commode par lequel on désigne une crise majeure de la culture européenne, crise qui n'est pas la première d'ailleurs. On a donc des gens qui mettent en avant certains faits qui sont généralement refoulés. On considère toujours que c'est secondaire que Napoléon a rétabli l'esclavage, par exemple. Et donc, face à ça, au lieu de courir aux abris ou au lieu de courir à la contre-attaque en disant « mais pas du tout, Napoléon est quelqu'un de formidable », il faut regarder la réalité de l'histoire et tout simplement faire advenir une nouvelle mémoire de la culture européenne qui intègre également les ombres. Et je pense que c'est ça, tout simplement, le grand problème aujourd'hui, c'est qu'on ne veut pas. On est au fond une culture de plus en plus simpliste, de plus en plus moraliste, de plus en plus puritaine en un sens, qui ne peut pas admettre que la condition humaine soit complexe et faite d'ombre aussi.
Pierre Vesperini, est-ce que c'est la même chose en Europe et aux États-Unis ? Vous parlez de culture européenne, mais les États-Unis aussi ont un gros problème. Le conseil municipal de New York, vous le racontez dans le livre, a décidé à l'unanimité de retirer la statue de Thomas Jefferson qui veillait sur ses délibérations. Thomas Jefferson a été le président des États-Unis de 1801 à 1809, après avoir été l'un des artisans de la déclaration d'indépendance. Mais il a aussi été un propriétaire d'esclaves qui faisait fouetter les esclaves en public quand il tentait de s'enfuir.
Et bien pire d'ailleurs. Mais en fait, non, vous avez absolument raison. Mais pour moi, ce que j'appelle la culture européenne comprend les États-Unis. Cette culture européenne s'est mondialisée et en commençant par les États-Unis.
Et alors la question qu'on se pose, nous tous, et en écoutant l'affaire Thomas Jefferson à New York, on ne peut qu'y repenser, c'est est-ce qu'il faut déboulonner les statues ? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut déboulonner la statue du maréchal Bugeaud ou celle de Colbert ?
Une des réponses que je propose, déjà, c'est qu'on ne peut pas établir de règles générales en disant il faut déboulonner les statues. Il faut toujours voir au cas par cas. Il faut aussi voir en fonction du contexte. Je donne par exemple l'exemple du président Wilson. On a débaptisé aux États-Unis une faculté d'études en relations internationales qui portait son nom à Princeton parce que Wilson était et vraiment un des artisans du maintien de la ségrégation aux États-Unis. Donc ça, je trouve ça tout à fait normal. En revanche, si vous débaptisez l'avenue du président Wilson à Paris, vous touchez à la mémoire des centaines de milliers d'Américains qui sont venus combattre en France en 1917. Donc je pense qu'il y a aussi la question du contexte qui est importante. Ensuite, je pense que il faut pas seulement penser à déboulonner des statues, mais il faut aussi penser à construire des statues. Prenons l'exemple de Gallieni, par exemple, à Paris, qui est vraiment un problème intéressant, parce que c'est à la fois l'artisan de la conquête de Madagascar, par exemple, et en même temps, c'est quelqu'un qui a défendu Paris en 1914. Donc c'est vraiment un problème complexe. Mais on pourrait imaginer d'ériger à Paris une statue de la reine Rana Valona III de Madagascar, ou une place publique qui porte son nom. Et c'est ça aussi qui...
En fait, on pourrait conserver les statues du maréchal Bugeaud à condition d'ajouter celle d'Abdelkader.
J'ai pris l'exemple de Gallieni et pas celui de Bugeaud, parce que l'exemple de Bugeaud me semble vraiment particulièrement monstrueux. Et ça me semble être moins le cas avec Gallieni, vous voyez, mais encore une fois, il y a vraiment des textes de Bugeaud, des actes de Bugeaud qui sont absolument monstrueux et qui, même à l'époque, étaient condamnés par les contemporains.
On choquait beaucoup de monde. On fait une pause, Pierre Vesperini, on se retrouve juste après.
9h, 10h, c'est arrivé demain.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Pierre Vesperini est mon invité ce matin. Il publie « Que faire du passé » chez Fayard, réflexion sur la cancel culture. Ce qui est en jeu, dites-vous, c'est toute la conception que nous nous faisons de l'histoire et partant de là de la nature humaine.
Cette querelle, au sens fort du terme, quand on parle de querelle des anciens et des modernes, cette querelle dite de la cancel culture oppose deux versions opposées de l'histoire, mais qui en même temps se rejoignent dans leur vision morale de l'histoire. C'est-à-dire que l'histoire est vécue en termes de bien et de mal, et de pur et d'impur, de monuments à célébrer, ou au contraire d'infâmes à vouer aux gémonies. Et donc, ce que je pense, c'est que sortir de cette querelle, c'est refaire valoir une version beaucoup plus complexe et beaucoup plus intéressante, à mon avis, de l'histoire, qui est la version classique de l'histoire. C'est l'histoire comme maîtresse de vie, magistra vitae, c'est la formule de Cicéron. Et l'histoire comme maîtresse de vie, c'est l'histoire en tant qu'elle nous fait réfléchir sur nos actes, sur notre condition humaine et sur nos complexités, sur les merveilles que nous parvenons à réaliser, mais aussi sur nos échecs, sur nos faiblesses. L'exemple de Jefferson est absolument magnifique pour ça, puisque c'est un homme qui a été d'un courage incroyable.
On parle du président
par rapport
des États-Unis,
à l'Angleterre. Hein. Tout à fait, Thomas Jefferson, donc dont on parlait tout à l'heure. Mais d'un autre côté, c'est vrai que quand on regarde sa position par rapport à l'esclavage, c'est vraiment consternant. Et voilà, en faisant ce livre, en fait, vous savez, j'ai très souvent changé d'avis. J'ai vraiment beaucoup évolué, puisqu'au début, comme beaucoup de gens de mon milieu, enfin, j'étais gêné par ce mouvement de la cancel culture. Et par exemple, quand j'ai vu qu'on déboulonnait Jefferson, évidemment, mon premier mouvement a été de dire « Mais quelle horreur! Mais comment est-ce possible? Jefferson, un homme tellement formidable !» Bon, c'est vrai que moi, je ne voyais pas du tout Jefferson en propriétaire d'esclaves. Pour moi, comme la plupart des gens de mon milieu, Jefferson, c'est un homme des Lumières, c'est un ami des encyclopédistes, un ami de la Révolution française, etc. Donc vraiment, je trouvais ça vraiment un mauvais procès, etc. etc. Donc, je me suis dit non, mais justement, écoutons voir, allons voir, et c'est vrai que, en effet, c'est absolument accablant.
Et donc, on pourrait le dire de tout le monde, au fond, l'humanité n'est pas divisée entre les bons et les méchants, tout simplement parce que les bons n'existent pas. Clémenceau, Roosevelt, Luther, Gandhi, Che Guevara, Voltaire, personne ne peut trouver grâce.
Oui, mais en même temps, voilà, attention, il ne faut pas non plus tomber dans un anything goes, genre un relativisme absolu. Non, il y a bien sûr des différences, et c'est aussi pour ça que même si Churchill est raciste, Churchill n'est pas Hitler. Donc, effectivement, il y a des personnages qui n'ont pas leur place dans la mémoire publique, dans la mémoire célébrative, dans la mémoire
monumentale. Non,
mais
je n'ai pas dit que les méchants n'existaient pas.
Non,
j'ai dit les bons n'existaient
ah, oui.
pas. Les vrais bons, les bons à qui on n'aurait rien à reprocher, peut-être à part Nelson Mandela.
Y a des gens à qui on a peu à reprocher quand même, il y en a. Et c'est vrai, Mandela, c'est un personnage assez admirable, notamment dans la reconnaissance, dans la conscience profonde qu'il a des imperfections de la nature humaine. Vous connaissez la formule de Pascal, qui veut faire l'ange, fait la bête. Et justement, c'est quelqu'un qui ne veut pas du tout faire l'ange. Et c'est justement, à mon avis, en étant absolument conscient de nos faiblesses, de nos imperfections et de celles des grands personnages de l'histoire qu'on peut être les meilleurs possibles.
Pierre Vespaini, ce que vous dites, c'est qu'au fond, si on déboulonne des statues, ceux qui sont offensés n'y gagneront pas grand-chose. Les minorités n'y gagneront rien. La démocratie américaine a été raciste pendant la plus grande partie de son existence. Ce n'est pas pour autant qu'il faut la canceller, l'effacer. Les minorités ne s'en porteraient pas mieux.
Oui, en fait, c'est un passage du livre où je critique cette gauche américaine, c'est une partie de cette gauche, pas toute la gauche américaine, mais qui se lance à bride abattue dans cette querelle des statues, par exemple, sans s'attaquer aux problèmes beaucoup plus profonds, aux problèmes économiques, aux problèmes sociaux. Je pense que c'est en plus une stratégie totalement, d'un point de vue strictement politique, je ne parle pas d'un point de vue moral, mais d'un point de vue strictement politique, c'est vraiment une stratégie suicidaire, puisque les enquêtes montrent que les minorités aux États-Unis ont des opinions plutôt conservatrices, plutôt modérées, entre guillemets, et qu'elles sont, elles sont les premières effrayées par ces discours.
Merci Pierre Vespaini. Je renvoie à la lecture de votre livre « Que faire du passé ?» Ça vient de paraître chez Fayard. Ce sont vos réflexions sur la cancel culture. On va s'intéresser à présent à Marie-Thérèse Walter, qui a été la femme, la muse de Picasso pendant une dizaine d'années. Brigitte Benkemoun vient lui consacrer une biographie passionnante.
9h, 10h, c'est arrivé demain.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour Brigitte Benkemoun.
Bonjour Frédéric.
Vous consacrez un livre à Marie-Thérèse Walter intitulé « Sa vie pour Picasso ». Il vient de paraître chez Stock. Marie-Thérèse a été la maîtresse de Picasso, sa muse, son modèle, la mère de sa fille Maya. Pendant une dizaine d'années, elle était sur tous les tableaux, les plus érotiques et les plus joyeux de toute l'existence de Picasso. Mais personne ne la connaissait. Marie-Thérèse, en fait, c'est un mystère que vous avez voulu percer.
Oui, c'est un mystère que j'ai voulu percer parce que dans un premier livre, j'avais m'étais intéressée à Dora Maar et j'avais bien évidemment tourné autour de cette femme dont qui a été beaucoup peinte et sans doute les tableaux les plus magnifiques, les plus joyeux, comme vous le disiez, de Picasso. Et on n'en sait pas grand-chose parce que d'abord, il l'a beaucoup cachée et puis ensuite, il s'est écarté d'elle tout en continuant à l'aider, à la faire vivre, mais elle n'a jamais fait partie du cercle d'amis, des soirées officielles que Picasso pouvait, auxquelles Picasso pouvait participer. Non, elle était cachée, elle a toujours vécu cachée.
Elle a 16 ou 17 ans quand il la voit pour la première fois et qu'il lui demande de poser pour lui. Picasso a 45 ans, il est marié. Nous allons faire de grandes choses ensemble, lui dit-il. Elle devient sa maîtresse au bout de 6 mois. Picasso est marié à Olga à l'époque, il a un petit garçon. Marie-Thérèse est son premier amour fou, dites-vous.
Oui, parce que, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai perçu. C'est un amour fou, parce que, au sens aussi de déraisonnable. C'est un coup de foudre, c'est une folie qui prend cet homme comme ça devant les Galeries Lafayette quand il croise cette jeune femme qui n'a que 16 ou plus probablement 17. Mais enfin, tout ça, ça fait partie du mystère aussi. Et c'est vrai que la relation est déraisonnable. La pulsion, la passion qu'elle lui inspire artistiquement et affectivement donne tous les ingrédients d'un amour totalement fou qu'il va éprouver pour elle et qu'elle va éprouver aussi.
Tu m'as sauvé la vie, lui dit-il. Il faut dire que c'est toujours pareil chez Picasso. Hein. Son désir pour une femme lui donne une énergie créatrice extraordinaire.
Ou l'inverse. C'est que je pense que je me demande si le si la vision qu'il a eue de Marie-Thérèse comme ça quand ils se promènent l'un et l'autre devant les galeries Lafayette n'est pas d'abord un appel artistique, c'est-à-dire cette femme, son profil grec l'inspire totalement et il sent qu'elle va régénérer sa peinture. Il est dans une période difficile avec son épouse, avec qui il s'entend de moins en moins bien, et il croise cette femme qui l'inspire peut-être artistiquement avant toute autre chose. C'est peut-être ce qu'on a le plus de difficulté à comprendre avec Picasso, c'est le lien entre sa vie amoureuse et sa création.
Alors il faut se représenter Picasso à ce moment-là. Hein. Il est avec sa femme Olga, une Russe blanche assez snob. Ils ont un fils Polo. Il y a une nounou, il y a un chauffeur en livrée. Ils ont une hispano-suiza noire. Ils passent leurs vacances à Dinard dans un palace face à la mer, en attendant d'acheter le château de Boisgeloup. Et puis de l'autre côté, il y a Marie-Thérèse. Qu'il retrouve en cachette, hein, y compris pendant les vacances. Elle est blonde, de type nordique, d'une grande beauté, insouciante, aimée, amoureuse, naïve, que la peinture de Picasso n'épate pas, comme elle dit. Elle n'y comprend rien, c'est trop compliqué. Elle préfère quand ça ressemble. Mais elle est tout de même pétrie d'admiration. Et peut-être le plus étonnant, c'est qu'à part Picasso, cette jeune femme n'a aucune vie sociale.
Aucune. C'est-à-dire qu'on a l'impression que Picasso l'a presque kidnappée. Alors c'est pas un kidnapping parce qu'elle va garder des liens avec sa famille, mais il l'a extraite de la vie où elle était, c'est-à-dire une vie assez modeste dans un pavillon au bord de Marne, et il va l'aspirer, la dévorer au service de son œuvre. Et cette femme, elle va vivre sous cloche, une vie pour commencer très agréable parce que grâce à Picasso. Elle voyage, elle a des vacances à Dinard, à Juan-les-Pins, elle est couverte de cadeaux, d'admiration et d'amour, comme elle dit. Et c'est vrai qu'il va, comme il ne la présente à personne pour des raisons, pour des bonnes et des mauvaises raisons, elle va être complètement coupée de toute vie sociale. Elle ne s'en plaint pas parce que finalement elle est d'un tempérament assez nonchalant et assez optimiste et assez joyeux, donc elle se laisse faire, elle trouve qu'elle mène une vie très agréable comme ça. Après, la suite le sera beaucoup moins. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a frappé quand j'ai écouté sa première interview qui a été donnée à France Culture un an après la mort de Picasso. C'est qu'à 64 ans, elle parle encore comme une petite fille, tellement elle a été en effet coupée de toute possibilité d'évolution.
Alors la tendance de, on vient de parler de cancel culture avec Pierre Vesperini, mais la tendance depuis quelques années, c'est de dénoncer chez Picasso l'homme violent, dominateur, misogyne, abuseur de femmes, à la limite de la pédophilie.
Oui, on peut lire ça. Ouais.
Oui, mais en fait, c'est un homme qui ne vit que pour sa peinture. Hein. Son égoïsme, c'est son génie.
C'est un monstre d'égoïsme. Moi, c'est comme ça que je l'ai perçu. C'est quelqu'un pour qui la peinture passe avant tout, mais c'est même pas pensé. C'est un ressenti, c'est une façon de dévorer les autres. Après, il se comporte mal avec les femmes, mais d'abord, c'est pas une nouveauté. On découvre un peu le chaud en le disant. C'est que il se comporte, il prend, il dévore, et quand il a cessé de s'inspirer de quelqu'un, il l'écarte sans forcément le jeter, parce que on voit bien ce qui s'est passé avec François Gillot. Il ne supporte pas qu'une femme aille avoir une autre vie ensuite. Non, il faut rester dans son univers. Il faut rester à portée de main. Il faut continuer à écrire. C'est quelqu'un qui maintient les femmes sous emprise. J'ai trouvé que le mot était plus juste que d'aller chercher des histoires de pédocriminalité qui n'ont pas de sens.
Mais emprise, c'est être amoureuse, non? Tout simplement, quiconque a été follement amoureux sait ce que c'est d'être sous emprise.
Oui, mais lui, c'est différent. Lui, il exige une lettre par jour, même quand il est avec une autre maîtresse. Il continue à maintenir ses liens comme ça de domination. Et puis, il faut pas oublier que Picasso, c'est un Espagnol né en Andalousie au 19e siècle. Donc, il se comporte comme un macho espagnol du 19e siècle. C'est aussi ça. Hein.
Pour ses 50 ans à Picasso, il y a une rétrospective Galerie Georges Petit. Il y a 200 tableaux qui sont montrés. Et les plus récents, les plus érotiques aussi, montrent tous la même jeune femme, blonde, toujours en train de dormir, que personne ne connaît.
Oui, c'est comme ça que la plupart des historiens d'art, des critiques ont découvert l'existence de Marie-Thérèse. Avant, il fallait être un petit peu plus observateur, il fallait repérer dans les tableaux cubistes les lettres M, T et W que Picasso faisait apparaître comme ça dans des coins, tellement il avait besoin de parler d'elle, même tout en la cachant. Et puis en 1932, oui, on a vu apparaître le rêve, ce corps voluptueux, ces couleurs joyeuses qui faisaient référence évidemment à Marie-Thérèse.
Quand elle a 25 ans, elle lui donne une fille, Maya. Il est ravi, hein, il adore les enfants. Mais il ne sera jamais vraiment question de mariage entre eux. Hein, c'était un problème pour divorcer d'Olga. Il aurait fallu tout partager, y compris les œuvres. Ce n'était pas trop le genre de Picasso.
Mais voulait-il vraiment épouser Marie-Thérèse ? Marie-Thérèse, c'est une femme qu'il a sublimée, qu'il a fantasmée, dont il a réinventé le corps. Et puis quand Marie-Thérèse devient réelle, c'est-à-dire quand il pourrait vraiment vivre avec elle, quand elle est la mère de son enfant, là c'est le moment où il va commencer à s'éloigner d'elle et à se lasser d'elle. C'est-à-dire que Marie-Thérèse, en maîtresse cachée, avait un intérêt évident. Marie-Thérèse en femme réelle, au quotidien, comme le quotidien effraie Picasso, comme le quotidien avec Olga l'avait dégoûté d'Olga. C'est à partir du moment après, à partir de la naissance de sa fille, qu'elle va être écartée, remplacée par Dora Maar, et elle va vivre une disgrâce de 50 ans, tout en restant attachée à Picasso de façon irrationnelle mais fascinante.
Et elle va finir par se pendre, hein, en 1977, 4 ans après la mort du peintre.
4 ans, elle l'a pas vu depuis une dizaine d'années. Elle continue à lui écrire, il continue à lui donner de l'argent. Il lui en donne de moins en moins, mais il continue il se sent probablement redevable de quelque chose. Il paye une dette. Il sait que cette jeune fille, il l'a kidnappée, il l'a sortie de la vie qu'elle aurait dû avoir. Est-ce qu'elle aurait été plus heureuse ? On n'en sait rien. Mais il a sûrement une dette à payer. Jusqu'à la fin de sa vie, il a envoyé de l'argent à Marie-Thérèse.
Et jusqu'au 31 décembre, il y a d'ailleurs au musée Picasso une exposition consacrée à Maya, la fille de Picasso et de Marie-Thérèse. Merci Brigitte Benkemoun.
Je vous remercie.
Votre livre s'intitule « Marie-Thérèse Walter, sa vie pour Picasso ». Il vient de paraître chez Stock.
Europe 1.
J'ai été surpris par ce générique bizarre. C'est arrivé demain et terminé. On se retrouve la semaine prochaine, samedi matin à 9h. Il est maintenant temps de retrouver le grand rendez-vous. Bonjour Sonia Mabrouk, quel est le programme ?
Bonjour à vous cher Frédéric. Deux invités pour un grand rendez-vous très politique. Tout d'abord Nadine Morano, eurodéputée et ancienne ministre. Et puis ce sera Adrien Quatennens de la France Insoumise. Et pour les interroger, je serai entouré de Nicolas Barré et Mathieu Boccoté.
Bonne émission.
Europe 1.